بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. Mes chers frères, dans ces versets que nous venons de lire de la sourate Al-Qiyamah, Allah Azza wa Jal explique quel sera le sort de ces personnes qui n'ont pas cru au message du prophète alayhi salatu wassalam le jour des comptes. Et Allah Rabbul Izza met en avant les manquements de ces personnes concernant leur foi, l'absence de iman, le refus de croire en le message du prophète alayhi salatu wassalam, mais également leur absence d'action. On lit donc la traduction, si on peut se rapprocher un petit peu. Mais il n'a ni cru ni fait la salat. Par contre, il a démenti et tourné le dos. Puis il s'en est allé vers sa famille marchant avec orgueil. Ibn Kathir rahimahullah explique dans son tafsir que Allah Azza wa Jal nous fait un rappel concernant les manquements de ces personnes. Le fait qu'ils n'aient pas cru au prophète alayhi salat wa salam et ils se sont détournés du droit chemin. Déjà, moi, quand j'entends ça, que ces personnes connaîtront un sort terrible au jour de Qiyama parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et son prophète, je fais choukar. Je remercie Allah. Premièrement, je remercie Allah parce que eux, fala saddaqa. As-saddaqa, on connaît peut-être le mazal at-tasdiq, le fait de croire. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru en Allah. Ils n'ont pas cru au prophète alayhi salat wa salam, ils n'ont pas voulu du Coran, ils n'ont pas choisi le droit chemin. Et moi qui crois en Allah, qui crois à mon prophète alayhi salat wa salam, qui pratique ma religion à mon niveau, avec mes manquements, avec mes faiblesses, mais j'essaie de m'accrocher, je fais de mon mieux, je sais que c'est un cadeau divin. C'est vraiment un ni'ma de la part d'Allah. Être né avec la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ou alors durant notre vie avoir découvert, avoir compris la valeur de ce kalima tawhid et d'avoir accepté l'islam, c'est-à-dire à l'instant T avoir la foi de son cœur, c'est le plus grand cadeau, le plus grand bienfait. Parce qu'à cet instant, si l'ange de la mort vient reprendre notre âme, on sait que celui qui a un atome de tawhid dans son cœur, il accédera au Jannah. Alors que ces personnes, la saddaqa. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que ces personnes qui n'ont pas cru, ils habitaient à Makkah. Ils côtoyaient le prophète alayhi salat wa salam. Ils étaient témoins de ces miracles qui avaient lieu. Mais comme on a eu l'occasion de le dire ici et à Montreuil dans les programmes de Sirat, qu'est-ce qui les a empêchés d'accepter la vérité? C'était l'orgueil, le kibr, la fierté. Malgré le fait qu'ils aient côtoyé le prophète alayhi salat wa salam, nous ne l'avons pas vu, nous ne l'avons pas fréquenté, Allahu Akbar, mais nous avons la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est vraiment un cadeau qu'Allah nous a accordé. Et tenez-vous bien, qu'Allah n'a pas accordé à même quelqu'un qui était proche de lui, qui l'a aidé. On parle de Abu Talib. Ce sont des choses qu'on ne peut pas comprendre, nous. C'est-à-dire que là, il n'y a pas à chercher une cohérence, une logique pour se dire que, oui, mais Abu Talib, c'est celui qui prenait la défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Makkah. Et c'est grâce à lui, par la grâce d'Allah, nous on le sait très bien, c'est la couverture d'Abu Talib qui fait que les Mekwa se retenaient. Parce qu'Abu Talib, c'est quelqu'un de respecté. Et donc, Abu Talib garantissait la protection du prophète alayhi salat wa salam. Qu'est-ce qu'il a fait pour son neveu? Et on avait même on va voir ça à Montreuil, le prochain programme de tafsir de sirat concernant les premières salats avant que le prophète reçoive les cinq salats lors du voyage nocturne, il y avait des salats qui existaient déjà le matin et le soir. Ce n'étaient pas les cinq salats obligatoires. D'accord ? Et une fois, et le prophète, bien sûr, avec les quelques compagnons, pour prier, il se retirait. Il ne faisait pas la prière devant tout le monde pour éviter les problèmes. C'est toute la sagesse également de le prophète alayhi salatu wassalam. Et Mubarak Fawri cite, je pense que c'est Ibn Hisham qui relate cette anecdote, qu'une fois Abu Talib a vu le prophète alayhi salatu wassalam en train de prier avec quelques compagnons. Il ne savait pas c'était quoi. Il a demandé à son neveu, mon neveu, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce gestuel? Ça correspond à quoi? Et le prophète a expliqué à son oncle Abu Talib que c'est la salat qu'Allah leur a ordonné de faire. Abu Talib a dit à son neveu, continue et reste ferme dans ta pratique. Cette bienveillance, cette gentillesse, cette sagesse. L'oncle qui remplace le père qui était décédé, tout ce qu'il a fait pour son neveu alayhi salat wa salam, en finalité, il quitte ce dunya sans la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est des choses que nous n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce possible que? Mais on n'a pas, Allah ne nous demande pas de tout comprendre. Mais quand Allah te donne quelque chose, ushkurullah. Remercie Allah. Chers frères, soyons convaincus qu'il n'y a pas plus chanceux que nous à l'instant. Certes, il y a des gens qui sont déjà au Hajj. On voit des photos des gens, les Malaisiens, les Indonésiens, il y a quelques pays qui arrivent très tôt. Ils sont déjà là-bas, autour de la Kaaba, ils sont de grands ni'ma. Mais nous sommes aussi d'un grand ni'ma. Parce que nous avons le tawhid, le haq, nous sommes sur le surat al-mustaqim, nous avons prié, nous écoutons un programme de tafsir, de hadith, de sirah, qui parle d'Allah et de son prophète. Nous sommes dans une assemblée de malaïka. Et si là, à l'instant T, quelqu'un venait à mourir, tout de suite, on meurt dans la, ça, ce qui s'appellerait un husnul khatima, une mort magnifique. Donc, fala saddaqa, ils n'ont pas cru. Wala salla, ils n'ont pas non plus prié. On a lu la traduction, non? Oui. Wala salla, wala kin kadhaba wa ta'ala, ils se sont donc détournés de quoi? Du haq et de la vérité. Naam. Et avant de passer au verset, thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, le Mufassirin attire notre attention sur les deux éléments importants dans la pratique. La saddaqa, c'est la foi. Le batin, la foi qui est dans le cœur. Wala salla, la prière résume les actions zahir, les actions apparentes extérieures. Ce qui veut dire que pour être accepté par Allah et pour être considéré comme ayant réussi son passage de ce dunya et être reçu par notre Seigneur le jour des comptes, et accéder au Jannah, il faut saddaqa wa salla. Il faut saddaqa wa salla. Si on part du principe de, on appelle ça le mafhum khalafa, mais là c'est pas vraiment mafhum khalafa. La saddaqa wa la salla, donc ils n'entrent pas au Jannah, dans le Jannah. Ils n'ont ni cru ni prié. Ce qui veut dire que, mais après on n'a pas besoin de la compréhension inversée, on a beaucoup de textes qui nous donnent les vertus de la salla. On comprend que si tu pries, et si tu as iman et tu pries, tu réunis déjà les qualités pour accéder au Jannah. Et je comprends également que les deux, ça marche ensemble. C'est pas « la saddaqa bas ». Non. Ce qui veut dire que avoir iman, c'est un grand bienfait, on en a parlé, mais c'est pas suffisant pour accéder au paradis. La foi doit être accompagnée de bonnes actions. « Umuman », de bonnes actions. Et « khususan », principalement là, « la salah ». Qui peut me rappeler un hadith qui met en avant, il y en a beaucoup, mais je cible un hadith qui rappelle à quel point la salat c'est crucial et décisif le jour de Qiyamah. Et pourquoi est-ce qu'il est important de le rappeler? Ça sent vachement bon, hein? C'est le restaurant qui fait grillade, mais c'est, pour moi c'est une fitna, c'est terrible, hein? C'est terrible. Khair, Inch'Allah. Inch'Allah, dans le Jannah, on va sentir le Allahu Akbar. Les parfums, le hanout ou le jannah, le parfum du paradis, mais également la nourriture du jannah, qui n'a rien à voir avec les brochettes, même si entre nous, les brochettes malgaches, c'est les meilleures. Franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a de leur assaisonnement, mais c'est mieux que les brochettes créoles. Excusez-moi, bref, je refais la parenthèse, c'est vraiment très bon. Mais dans le jannah, Inch'Allah, la personne voit un oiseau du paradis qui vole, et il souhaite le manger et Allah le permet de... Adieu. Moi, je pourrais vous faire une liste de ce que je vais demander, Inch'Allah, pour manger. qu'Allah nous l'accorde et qu'un jour dans le Jannah, on sera ensemble assis dans une assemblée sous un arbre du Jannah le vendredi après qu'on ait visité notre Seigneur Azza wa Jal, comme les hadiths le mentionnent, et les gens discuteront et se rappelleront des ayyam dunya. Comment on a vécu de cette dunya? Comment c'était compliqué des fois? Comment est-ce qu'Allah nous a guidés quand même? Comment est-ce qu'on en est arrivé à là? Kayf wasalna ila huna? Comment est-ce qu'on est arrivé au Jannah? Parce qu'Allah m'a aidé, Allah m'a pardonné, Allah m'a guidé malgré mes erreurs et manquements. On aura cette conversation, Inch'Allah, oui ou non? Dites Inch'Allah, Amin. Et on mangera de la nourriture du Jannah et des fruits du Jannah et des boissons du Jannah. Allahumma Amin. Et on goûtera de ce fleuve, فيها نهار من ماء غير آسين وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى. On va boire de ce fleuve d'une eau pure, de ce fleuve de miel, de ce fleuve de lait, de ce fleuve d'un vin qui est pur du Jannah. On l'aura, Inch'Allah. C'est ça que nous voulons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir un doctorat, c'est pas d'avoir 10 bâtiments, c'est pas d'avoir un compte rempli, garni. Il y a des gens qui meurent avec un compte rempli, garni, mais ils meurent seuls. Et on les enterre avec 2 pièces de tissu, rien d'autre. Et ils rentrent à la tombe avec le a'mal. Maintenant, si ce dunya les a empêchés d'accomplir les bonnes actions, voilà, sallah, c'est khasara. Si ces bâtiments et ces millions l'ont détourné de la salah, c'est un gâchis, c'est une vie qui est perdue. C'est terminé, ça c'est Allahu Akbar. Allez, on revient. Le hadith, du coup, je vais le dire. Le prophète alayhi salat wa salam nous rappelle que أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. On citait beaucoup ce hadith avant. La première chose à propos de laquelle chaque être humain sera interrogé le jour de Qiyama, c'est la salah. Si le nombre de salah est présent, il n'y a rien qui a été raté, le reste des étapes de l'au-delà sera grande facilité. Texte du hadith. Et si dès le départ, les salah coincent, on a raté des prières, le reste des étapes de l'au-delà sera difficulté sur difficulté. C'est ce que notre prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné. Et j'insiste sur cette base qui est la salah pour nous, pour notre famille, pour nos enfants, parce que nous sommes à une époque, mes chers frères, où nous entendons parfois des discours qui détournent le croyant de l'essentiel. On a beaucoup de discours un peu trop philosophiques sur les valeurs de l'islam. Oui, les valeurs de l'islam, c'est le résultat. L'amour, la fraternité, l'entraide, l'humanisme, le fait de tendre sa main vers son prochain, bien sûr. Mais il y a des gens qui se focalisent uniquement, qui se focalisent sur ces valeurs et du coup minimisent l'importance des actions en se disant que tout est dedans. C'est dans le cœur ça. La foi, c'est dedans. C'est entre moi et Allah. Allah connaît que dedans, moi, je suis propre. Oui, certainement. Certainement. Il n'y a pas de doute qu'Allah sait ce qu'il y a de ton cœur. Mais le Seigneur qui sait ce qu'il y a de ton cœur et qui apprécie de voir son serviteur venir en aide aux gens, participer à des manifestations caritatives ou donner de son sang ou envoyer des colis alimentaires dans les pays qui en ont besoin et ainsi de suite. Allah est très fier de toi quand tu fais ça. Mais ce même Seigneur t'a demandé en priorité la salah, qui est le pilier du dîn. Et le prophète nous a dit que, je répète, la première chose à propos de laquelle vous serez questionné le jour de Qiyama, ce sont vos salah. C'est la base. Il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de discussion. Et n'écoutez surtout pas les discours qui vous disent que la foi c'est dans le cœur et le reste c'est entre moi et mon Seigneur. Ça c'est waswasa min ash-shaytan. Ça c'est waswasa min ash-shaytan. Et donc faisons en sorte de parfaire nos prières. Un croyant ne rate pas la salah. Quel que soit ton engagement, de ton métier, trouve un temps. Même si tu as un commerce, quand c'est l'heure de la salah, et j'assume ce que je vais dire, même si tu ne peux pas te déplacer pour venir à la masjid parce qu'il y a une masse de travail, c'est complexe, Allah connaît. Et Allah voit que le samedi et le dimanche, tu es présent à la salah de Asr al masjid, quand le travail ou tu n'es pas au bureau. Mais tiens 2 minutes de ton temps, isole-toi et fais ta salat. Ne rate pas la salat. Parce que c'est la première chose à propos de laquelle, je répète pour la troisième fois, nous serons interrogés. Et personne n'échappera aux questions concernant la salat. Qu'Allah nous donne la hidayah, le tawfiq, d'être assidu et d'être addict spirituellement à nos salat, et qu'Allah nous permet de le transmettre à nos enfants. Hada. Naam. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى on a déjà vu. ثم ذهب الى اهله يتمطى. Puis il s'en est allé vers sa famille marchant avec orgueil. Et Allama Ibn Kathir rahimahullah explique qu'ils n'ont pas cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne croient pas en Allah ni au risal du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne prient pas, ils ne se soumettent pas à Allah ni dans leur cœur ni par leurs actes, et paradoxalement c'est des gens qui vivent dans l'insouciance totale, sans se soucier, sans penser au lendemain, à la mort, à la vie après la mort, rien du tout. Ils vivent ce monde, ils vivent cette vie comme si c'était l'unique vie, la seule chose qui comptait. La seule chose dont ils disposent. Et ça c'était la grande erreur des mouchriquins de Quraysh, mais qu'on retrouve parfois même chez nous, croyants. À partir du moment où ton iman bil yawmil akhir n'est pas bien ancré dans ton cœur, ta foi en l'au-delà, quand la foi en l'au-delà n'est pas bien installée et ancrée dans le cœur d'un croyant, le musulman vit malheureusement avec une insouciance qui est similaire à celui qui ne croit pas. Celui qui ne croit pas, il ne pense pas au lendemain, comme on dit, il ne pense pas à la résurrection, à l'au-delà, ni rien du tout. Mais celui qui a la foi, mais qui n'a pas travaillé son iman concernant l'au-delà, il vit dans, on va dire, une insouciance qui est proche de celui qui ne croit pas. Et qu'Allah nous protège de cette insouciance. Ibn Kathir fait le parallèle avec d'autres versets, innahu kana fi ahlihi masrura, innahu dhanna an lan yahur, où ces personnes ne croyaient pas et ils retournaient vers leur famille heureux, tranquilles, et ils appréciaient la vie, ils vivaient avec cette fierté, cet orgueil, cette autosuffisance, sans jamais penser qu'un jour ils retourneront vers Allah Azza wa Jal. Et des fois, Allah peut laisser certaines de ces créatures se complaire dans soit le shirk, le kufr, ou alors de leur fisq, de leur péché, et leur accorder ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que c'est une personne qui ne croit pas, ou alors quelqu'un qui ne prie pas, qui reste, qui vit de la désobéissance totale, qui ne se soumet pas à Allah, mais malgré ça, la personne jouit de tout ce que nous pouvons nous souhaiter avoir. Un bon travail, une situation familiale stable, une maison, moyen de transport, pas de problème de finances, pas de problème de santé. La personne apprécie sa vie. Il voyage, il va en vacances, voilà. Et quand on le regarde, il dit, ben Bougane, elle est tranquille. Comme il dit, il apprécie. Oui, mais il apprécie. C'est pas parce qu'il apprécie qu'il veut dire qu'il est dans, il est sous la protection d'Allah et qu'Allah l'a comblé de bienfaits, non. Et c'est là qu'Ibn Kathir, et là on a toute l'intelligence de nos mufassirin, il fait un parallèle avec « Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun ». Il y a des personnes qu'Allah a laissées complètement dans l'égarement. C'est-à-dire, ces personnes qui sont éloignées d'Allah, éloignées, éloignées, et à un moment donné, Allah les a laissées. Et Allah leur dit « Kulu wa tamatta'u ».« Kulu », manger. « Wa tamatta'u », profiter. Allahu Akbar, nasallallahu alayhi wa sallam wa ta'afi. Allahu Akbar, qu'Allah nous protège de ces situations où nous profitons de ce dunya, ou que nous profitons des bienfaits de ce monde en tournant le dos à Allah. Ça veut dire qu'Allah ne veut plus rien de bien pour toi. Contrairement à celui qui est éprouvé, qui a des problèmes de santé, qui est, voilà quoi, il pense qu'il est poursuivi par les problèmes, en fait, quand tu as des épreuves avec iman, bien sûr, c'est qu'Allah veut du bien pour toi. Allah veut te ramener, ou Allah veut t'élever. Par des maladies, par des douleurs, par des épreuves, par des difficultés, Allah élève ton grade. Ça ne veut pas dire que ton Seigneur ne t'aime pas. Au contraire, il s'occupe de toi de cette façon. Bikhilafi man, contrairement à celui qui jouit, comme on l'a dit, de ce monde, des plaisirs de ce monde, en tournant le dos à Allah, ça c'est la pire des choses. Allah leur a dit, Kulu wa tamatta'u, qalilan. Qalilan, ça veut dire quoi? Très peu, shwaya. Pourquoi qalilan? Parce que cette vie, elle est très courte. Combien de temps il va profiter de ce monde? Dans quelques années, dans 10 ans, 20 ans, il meurt et puis c'est terminé. Et ensuite, les châtiments, le jour de Qiyama, c'est terrible. Nasallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous protège de la rafla et du fait de se complaire et de se satisfaire de cette insouciance et de la désobéissance. Et qu'Allah nous permet, bien au contraire, de trouver du bonheur uniquement dans les bonnes œuvres. Qu'Allah nous permet, je répète, qu'Allah nous permet de trouver l'épanouissement, le bonheur et la joie dans les bonnes actions. C'est ce qu'on appelle halawatul iman, la douceur de la foi. Qu'un croyant qui se réveille, Allahu Akbar, Allahumma ja'alna minhum, à 4h30 du matin, on est en hiver, et qui peut donc prier qiyamul layl wa tahajjud. Oui, mais on n'est pas de Ramadan. Oui, mais qui a parlé de Ramadan? Qui a dit que qiyamul layl tahajjud, c'est que Ramadan? C'est toute ta vie. Le prophète ne ratait jamais une prière de la nuit. Ramadan, oh Ramadan, jusqu'à ce que ses pieds étaient gonflés et il se fendillait tellement il restait debout en prière. Celui qui se lève à 4h30, même plus tôt, et qui prie son Seigneur, et qui vient à la masjid pour salat de Fajr, en jama'a, en congrégation, c'est ça que nous devons rechercher et trouver le plaisir dans ces a'mal. Et quand Allah t'a accepté, et te donne un degré de concentration, de dévotion, ou que tu t'investis dans les bonnes œuvres, parce qu'il y a un travail que tu fais en amont, en restant éloigné des péchés, tu fais un grand mujahada pour ton Seigneur. Tu te sacrifies pour lui parce que tu contrôles ton regard, tu contrôles tes oreilles, tu fais attention à ce que tu dis. Tu mets pas une main ni un pied dans le haram. Et donc Allah t'accepte, Allah aime tes sacrifices et tes efforts. Et Allah te permet de trouver la concentration dans la salat. Dans le hadith stipulé que le regard, c'est une flèche du diable. Le fait de regarder le haram, je veux dire. Le zina par les yeux. Et celui qui s'en protège, Allah lui accorde quelque chose de magnifique, la douceur de la foi. Et de façon générale, man taraka shay'an lillah ya'awwadahu Allahu khayran minhu, celui qui délaisse quelque chose pour Allah. Je délaisse un péché pour mon Seigneur, Allah m'accorde quelque chose de mieux. Et les savants disent, qu'est-ce qu'Allah t'accorde de mieux? Allah te donne la douceur de la foi. Et donc quand tu trouves du bonheur dans le tahajjud, dans les du'as, dans le dhikrullah, quand ton bonheur c'est après la salat, tu prends un peu de temps, 5 minutes de ta vie, tu t'appuies contre un poteau, contre un mur, et tu fais le tasbiha, tu fais subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, tu lis les adhkar que le prophète disait après chaque salat, et tu implores ton Seigneur, et que c'est là que tu trouves sakina. Sache que tu es aimé par ton Seigneur. Et que ça, c'est le plus grand bienfait. Donc Allah nous permet de trouver la douceur de la foi, et le bonheur et l'émancipation dans les bonnes œuvres, et qu'Allah nous protège de nous laisser détourner de dhikrullah et de ibada par les plaisirs de ce dunya. Allahumma amin. Naam. Donc, faisons attention à cette situation où des fois on se plaît, mais en finalité c'est qu'Allah t'a déjà abandonné, qu'Allah nous protège. Et si on prend l'exemple totalement contraire à ces personnes qui s'éloignent du droit chemin, on a un sahaba qui s'appelait Hanzala radiallahu anhu, qui une fois était en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il écoutait les rappels de son prophète alayhi salatu wa sallam, et il sentait son iman augmenter, parce que voilà, être auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou écouter un rappel, ça, je disais un terme en anglais, ça booste, ça augmente le iman. Et après que l'assemblée soit terminée, parce que les sahaba étaient également des êtres humains, ils avaient femmes et enfants, ils devaient travailler pour acheter à manger, pour amener la nourriture à la maison. Il ne faut pas croire que les sahaba, leur piété était qu'ils étaient dans la masjid du matin au soir, et leur piété était telle que quand ils rentraient chez eux, il y avait de la nourriture qui venait du ciel. Non. Il y en a qui étaient commerçants, Il y en a qui travaillaient dans les champs. C'était les deux métiers. Et il y en a qui avaient des troupeaux de chameaux, de moutons. C'était les métiers les plus connus. Après, il y avait des artisans. Il y avait ceux qui faisaient des parfums, ceux qui faisaient de l'huile, ceux qui... et ainsi de suite. Donc, Hamdallah, après que l'assemblée était terminée, parce que je le souligne, le Prophète ne faisait jamais de grandes assemblées. C'était toujours très court, mais puissant. Puissant. Parce que l'émetteur était exceptionnel, le Prophète, mais les récepteurs étaient également exceptionnels. Allahu Akbar. C'était les cœurs des Sahaba qui avaient tout sacrifié pour Allah et son Prophète. Et quand le Prophète disait une parole, ça entrait tout de suite et ça brillait, ça illuminait tout de suite. Nous, des fois, on écoute, ça rentre pas, ça ricoche, parce qu'il y a trop de péchés en nous. Qu'Allah nous pardonne. Et donc, Hamdallah, après que le Prophète ait terminé son majlis, il rentre chez lui, il retrouve sa femme et ses enfants. Et il est content. Il joue avec ses enfants, il plaisante avec son épouse. Et tout d'un coup, il est envahi par un doute. L'histoire est connue, hein, c'est un rappel, ça. Il est envahi par un doute. Il s'est dit qu'il y a un instant, j'étais auprès du Prophète sallam, mes larmes coulaient de mes yeux parce que j'entendais les rappels sur l'au-delà. Et là, je suis en train de rigoler avec ma femme et mes enfants. C'est quoi ce décalage-là? C'est quoi? Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Et il s'est posé la question, serais-je donc un munafiq, un hypocrite? Et il a eu peur. Il a stressé. Nous, quand est-ce qu'on stresse? Quand il y a un résultat d'analyse de sang qui n'est pas bon, quand il y a un problème, on stresse, on est anxieux, on a besoin d'une réponse. Lui, il a stressé parce qu'il a eu une crainte qu'il soit hypocrite. Il quitte sa maison, il retourne vers le Prophète, mais il trouve un autre sahaba, il discute, il se rend compte qu'ils étaient là pour la même chose, et il dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Le Prophète dit que ne vous inquiétez pas. Ça, c'est le sens du hadith, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Si vous étiez toujours au summum de la foi, les anges seraient venus au Fumula 4. Mais nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes des êtres humains. Il est tout à fait normal, je résume, d'avoir ces réactions-là. Les savants disent que la réaction de Hamdallah est un modèle pour nous. Le croyant qui vraiment a un iman qui est installé dans son cœur doit se faire du souci en permanence pour sa foi. À chaque instant, pose-toi la question. Est-ce que je suis de le haqq? Est-ce que à cet instant Allah est satisfait de moi? Est-ce que là à cet instant Allah me regarde, me voit, m'entend? Est-ce que c'est bon ce que je suis en train de faire? Est-ce que je ne suis pas de la désobéissance? Ça, c'est un souci permanent du croyant. Et ça, c'est une manifestation, c'est une preuve de taqwa, de crainte d'Allah, de piété. Qu'Allah nous l'accorde et nous protège de l'errance et de la rafla et de l'insouciance. Ah ben. On s'arrête à l'incham. Je pensais terminer le qiyama ce soir, mais il reste deux passages, deux versets, et on complétera la prochaine fois. Qu'Allah Rabbul Izzah illumine nos cœurs par ces quelques paroles, et que la réalité des versets guide nos cœurs, nous permet d'être sur le droit chemin. Permettez-moi juste un mot concernant le drame qui s'est passé hier à quel endroit? Annecy. C'est où ça, Annecy? Hein?
De la Savoie là-haut.
D'accord. C'est près de quelle ville? C'est pas à Paris, non?
Non, il y a Belfort.
D'accord, je suis pas très fort en géographie. Un homme, dans un parc, on a su l'actualité, il prend un couteau, il agresse des enfants. J'ai presque du mal à parler de ça parce que ça nous perturbe, ça nous retourne. C'est inhumain, c'est barbare, c'est de la folie. Je ne sais pas comment on peut qualifier ça. Et qu'Allah Rabbul Izzah accorde la santé à ces personnes qui sont à l'hôpital, parce que ce sont des ma'asoums, des enfants. Certains ont le pronostic vital engagé, ils sont entre la vie et la mort, comprenons. C'est dramatique, qu'Allah leur accorde à tous sa santé et apaise le cœur de la famille, et les protège, et protège l'ensemble de ces créatures contre des personnes qui font des choses aussi atroces et horribles. Ce que nous retenons également, qui est perturbant, c'est que cette personne, en commettant ce genre d'acte, il a dit « In the name of Jesus ». Il le disait en anglais apparemment. Il l'a fait au nom de Jésus. On était plutôt habitués, malheureusement, à d'autres catégories de personnes qui commettaient des meurtres, que ce soit au couteau, ou faisaient au nom d'Allah. Et ça nous perturbait, ça nous attristait parce que On sait qu'ils sont de le battre, il n'y a pas besoin d'expliquer ça. Mais qu'ils prennent le nom d'Allah pour faire quelque chose d'horrible, c'est la pire des trahisons. Et se cacher derrière le motif religieux, il n'y a pas de mot pour qualifier ça. Et nous, ça nous perturbe aussi que cette personne ose prendre le nom de Jésus. Isa alayhi salam. Parce que Isa, nous le portons dans notre cœur. Étant un ulul azmi min ar-rusul, un des plus grands prophètes qu'Allah a envoyé sur terre, avec notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec Nuh alayhi salam, avec Ibrahim alayhi salam, les cinq grands anbiya. Et donc, c'est une insulte à notre prophète Isa alayhi salam, à Jésus. Et donc, nous sommes aussi touchés. Je pense que la communauté chrétienne est perturbée, tout en sachant que ce que la personne a fait n'a strictement aucun rapport avec leur religion. Mais c'est de ça que nous, c'est ce que nous clamions aussi hein, depuis une dizaine d'années. Ce qui est malheureux, c'est que ça se produit en prenant le nom de notre prophète et sous couvert d'une autre religion, mais à l'unanimité, nous condamnons toutes, bien sûr, ces actes de barbarie, ça, il n'y a pas besoin de le dire, mais l'utilisation du nom d'un prophète ou du nom de Dieu, du nom d'Allah, pour commettre ce genre de choses. Et là, on réalise, et j'espère que le monde va réaliser, que la folie n'a pas de religion. La folie n'a pas d'origine. La folie n'a pas de couleur, n'a pas d'ethnie. L'ignorance, elle n'est liée à aucune religion. C'est vraiment l'ignorance. Et c'est l'ignorance que nous devons combattre, et qu'Allah Azza wa Jal, donc, je répète, le doua accorde la santé à ses enfants et accorde à l'ensemble de ses créatures la protection. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.